le livre, il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
De la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur ». À la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
De notre Seigneur Jésus-Christ selon sa main. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu dans deux jours.
les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Car ils se disaient,
pas un texte pour éviter une émeute dans le peuple.
Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle le lui versa sur la tête. Or, quelques-uns s'indignaient.
À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et en faire d'autres pauvres.
Et ils la critiquaient. Mais Jésus leur dit,
laissez-la. Pourquoi la tourmenter? C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez les secourir. Et moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance, elle a parfumé mon corps au moment de ce récit. Amen, je vous le dis. Partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire.
Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la semaine des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent
« Pourrais-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal ?»
Il envoie deux disciples.
« Allez à la ville. Vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le et là, il entrera, dit ce propriétaire. Le maître peut te dire où est la salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. »
Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara.
Amen, je vous le dis. L'un de vous mange avec moi, va me livrer.
Ils devinrent tout tristes. Ils lui demandaient l'un à l'autre.
Serait-ce moi?
Il leur répondit.
Et l'un des 12 se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui qui le livre. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas dit.
Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant
« Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit
« Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit,
« Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Pierre lui dit alors,
« Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. »
Jésus lui répond,
« Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. »
Mais lui reprenait de plus belle.
« Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. »
Et tous disaient de même. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples,
« Restez ici, moi je vais prier. »
Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit,
« Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. »
Écartant un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait,
« Papa, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi ce que tu veux. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre,
« Simon, dors, tu n'as pas eu la force de veiller une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. »
Il retourna prier, en répétant les mêmes paroles. Quand il revint près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Et il ne savait que lui dire. Une troisième fois, il revient et leur dit.
Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Le voici tout proche, celui qui me dit.
Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva avec une bande armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Or, le prêtre leur avait donné un signe convenu.
Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde.
À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit,
Rabbi,
et il l'embrassa. Les autres lui mirent la main dessus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara,
« Ai-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les écritures s'accomplissent. »
Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtement qu'un drap. On le saisit, mais lui, lâchant le drap, se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se rassemblent. Pierre avait suivi Jésus de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis parmi les gardes, il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, plusieurs portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient même pas. Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage.
Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme.
Et même sur ce point, ils n'étaient pas d'accord. Alors le grand prêtre se leva devant l'assemblée et interrogea Jésus.
Tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi ?
Mais lui gardait le silence, et il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interroge de nouveau.
Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?
Jésus lui dit.
Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel.
Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit.
Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Quel est votre avis ?
Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le rouèrent de coups en disant
« Fais le prophète !»
Et les gardes lui donnèrent des gifles. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qui se chauffe, le dévisage et lui dit
« Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. »
Pierre le nia.
Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Puis il sortit dans le vestibule. La servante, l'ayant vu, recommença à dire à ceux qui se trouvaient là,
en voilà un qui est des leurs.
De nouveau, Pierre le niait. Un moment après, ceux qui étaient là lui disaient,
sûrement tu en es. D'ailleurs, tu es Galiléen.
Alors il se mit à jurer en appelant sur lui la malédiction.
Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. »
Et aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus. « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il se mit à pleurer. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis, ils enchaînèrent Jésus et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea.
« Es-tu le roi des Juifs ?»
Jésus répond.
« Je le dis, je le suis. »
Les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate, lui, demandait à nouveau.
Tu ne réponds rien. Quoi à toutes les accusations qui portent contre toi?
Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour avoir tué un homme lors de l'émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit.
« Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?»
Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait,
« Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?»
Ils crièrent de nouveau. « Crucifie-le !» Pilate leur disait,
« Qu'a-t-il donc fait de mal ?»
Mais ils crièrent encore plus fort,
« Crucifie-le !»
Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appellent toute la garde, lui mettent un manteau rouge et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont pressée. Puis ils se mirent à lui faire des révérences.
« Salut, roi des Juifs !»
Ils frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et ils lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Il lui offrait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, on crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête.
« Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. »
De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux,
« Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Alors nous dirons et nous croirons. »
Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte,
« Eli, Eli, lama sabachthani. »
Ce qui veut dire,
« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant,
« Voilà qu'il appelle le prophète Élie. »
L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant,
« Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. »
Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.
se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria :
Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu.
Et il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il soit déjà mort, fit appeler le centurion pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta donc un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis.
Chers amis, quelques mots sur ce récit de la Passion que nous venons d'entendre, d'écouter ensemble, de manière sans doute un peu binaire, et une bonne manière d'écouter le récit de la Passion et une mauvaise. La mauvaise manière d'écouter ou de lire ce récit, c'est vraiment d'être face à quelque chose qui est extérieur à nous. Voilà, on écoute, on est attentif. Peut-être qu'on est touché par ce qui se passe, mais ça nous reste un peu étranger. Pour prendre une illustration, vous savez, ce moment où on est devant le journal télévisé, on voit qu'une catastrophe naturelle à l'autre bout du globe, sur le coup, ça nous touche, vraiment, on a mal pour eux. Mais bon, une fois qu'on a éteint la télé, on passe assez vite à autre chose. Parce que ça ne nous concerne pas plus que ça, directement. Donc, il faut réussir à vivre intérieurement ce récit de la Passion. Comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, avec ce que je vais vous dire, je suis désolé, mais ça veut dire qu'il va falloir le lire une deuxième fois. Mais comme c'est un peu long à écouter, souvent on décroche en cours de route, ça peut nous faire que du bien. En fait, je pense qu'il y a peut-être la manière la plus simple, c'est d'essayer de se mettre à la place des personnages. On peut se mettre, et je pense de manière honnête, à la place de quasiment tous les protagonistes de ce récit. Même à la place de Jésus. Je commence par lui. Toutes les fois où, de fait, dans notre vie, on a pu subir l'injustice. On a souffert dans notre corps ou dans notre âme, et on a quelque chose de notre souffrance qu'on retrouve en regardant Jésus. On peut s'identifier à ceux qui tiennent les beaux rôles. Joseph d'Arimathie, par exemple, qui était là juste à la fin. Simon le Cyrénéen, ceux qui ont une belle présence auprès de Jésus dans ce moment d'épreuve. Et puis, c'est un peu plus douloureux, on va s'associer à ceux qui ont un peu les mauvais rôles. Et en fait, c'est extrêmement important. Peut-être vous vous rappelez, lorsque le pape François est devenu pape, lorsqu'il s'est présenté au micro, il a dit « Je suis un pécheur ». Si le pape peut le dire, je pense que nous tous, on peut dire la même chose. Et en fait, c'est important parce que sinon, on ne comprend pas que si Jésus donne sa vie, c'est pour nous. De quoi on a besoin d'être sauvé? Eh bien, vous voyez, que ce soit par rapport à Dieu ou par rapport aux autres, en fait, la plupart des mauvais rôles, on les a joués. On a pu être la foule un peu hypocrite qui acclame Jésus quand il rentre à Jérusalem et qui hurle avec les loups pendant son calvaire. On a pu être Pilate qui se lave les mains alors qu'il sait que sans doute il fait une erreur. On a peut-être pu être c'est les grands prêtres qui manigancent par derrière parce qu'il y a des luttes de pouvoir ou de la jalousie. On a pu être les apôtres qui, d'une manière un peu mystérieuse, disparaissent. Trois ans qu'ils sont avec Jésus, là, ils sont absents. On a même pu être Saint-Pierre qui dit non, mais moi je ne renierai pas et il jure ne pas connaître cet homme. C'est un peu douloureux de faire ce constat, je crois quand même que c'est vrai. Le but, c'est pas de nous briser le moral. Parce que bien plus grand que notre péché, en face, il y a l'amour de Dieu. Le récit de la Passion, c'est on voit jusqu'où va l'amour de Jésus. On regarde cet amour. Et on se dit, j'ai besoin d'être sauvé. Souvent, on préfère ne pas le regarder. Ayons le courage, si on lit la Passion, jusqu'où va Jésus, je me dis la moindre des choses, et qu'on regarde en face, finalement, de quoi on a besoin d'être sauvé. Et ça ne nous déprimera pas, parce que bien plus grand que ça, il y a son amour. Le fruit logique, n'est pas le fruit évident, mais le fruit logique d'une écoute du récit de la Passion, c'est de vivre du sacrement de la miséricorde. Si on comprend ce qui se passe dans ce récit, c'est très simple, on va se confesser. David, il m'a aimé jusque-là. Et on ne veut pas que cet amour se perde. Il y a une vieille phrase dans un vieil hymne qui dit qu'un tel labeur, qu'une telle offrande ne soit pas vaine. Et c'est parce qu'on demande à se laisser aimer, on demande ce pardon. On goûte cet amour de Dieu pour nous que, ben voilà, on rend la Passion, on pourrait dire, efficace pour chacun de nous. Vraiment que ça nous habite, et je m'arrête là, ça nous habite pour cette semaine sainte. De dire vraiment, voilà, cet amour de Jésus, cet amour de Dieu qui nous est donné à vivre. On va voir à travers le jeudi saint, qu'on voit déjà dans notre communion tout à l'heure, on va reméditer au vendredi saint jusqu'à cette résurrection, que ça nous habite, il nous a aimés jusque-là. Ensemble, nous proclamons notre foi.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Et c'était comme crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Pour cette semaine sainte, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du salut.
être changés dans leur vie. Prions le Seigneur.
Jésus, Sauveur du monde, écoute par pitié.
Pour ceux qui vivent cette semaine comme si le Christ n'était pas mort pour eux, afin qu'un jour leurs yeux s'ouvrent à la lumière, prions le Seigneur.
Jésus, Sauveur du monde, écoute-toi en pitié.
Pour tous les hommes qui souffrent, afin que le sacrifice de Jésus apaise et sanctifie toutes les douleurs, prions le Seigneur.
Jésus, Sauveur du monde, écoute-toi en pitié.
Pour nos frères défunts, afin que Dieu les prenne dès aujourd'hui dans son paradis, prions le Seigneur.
Jésus, Sauveur du monde,